Bonjour, je suis Romain. Si j'étais une pilosité faciale, je serais des bacchantes.
Bonjour à toutes, bienvenue dans Culture au Trip, le podcast où on s'assoit autour d'une table, à quatre, on mange des M&M's et on parle avec notre invité de trois œuvres qui ont marqué sa vie, qui l'auraient touché, bouleversé, secoué, des œuvres importantes d'une personne qui aurait envie de venir en parler avec nous. Aujourd'hui, on est rejoint par Romain, tout de blanc vêtu, qui va nous parler de Gorillaz. L'album éponyme de Gorillaz, sorti en 2001, qui va nous parler de Fight Club, le film de David Fincher sorti en 1999, et de Akira, le film d'animation de Katsuhiro Otomo, sorti en 1991. Le podcast est présenté par Jules.
Salut.
Par Sylvain.
Bonjour.
Et par moi-même, Madar. Romain, bienvenue.
Bonjour à tous.
Comment ça va, Romain?
Ah, je suis très impressionné d'être là.
Ah bah oui, on est impressionnant. C'est nos énormes pecs.
C'est ça.
Romain, par quelle œuvre veux-tu commencer? De quoi as-tu envie de discuter en premier?
Moi, j'ai envie de commencer par Gorillaz. Voilà, comme ça.
Gorillaz de Gorillaz.
Gorillaz de Gorillaz.
Ils sont pas fait chier.
Non, ouais.
Alors, qu'est-ce que tu as à nous raconter sur Gorillaz, comment est-ce que tu as rencontré cette œuvre?
J'ai rencontré ce club, cette œuvre, je m'en souviens encore, c'était un soir à l'époque où sur M6, il passait des clips pendant la nuit, et là, arrive un clip d'animation avec une espèce de. Dans le clip, on a vraiment le début qui part un peu avec l'harmonica, tout ça, avec le. Un petit peu derrière, t'as vraiment une ambiance un peu chou. Je fais wow, qu'est-ce que c'est que ce truc? Et l'air m'a pas quitté du tout derrière. Je dis, mais il faut absolument que je. Et ils ont fait quoi d'autre, ces gens-là, tu vois? Et ça m'a vraiment imprégné, quoi. Et genre, je crois, dans la semaine qui a suivi, je me suis acheté avec mes sous à moi mon premier album de musique.
Et, c'est le premier album que t'as
c'est
acheté?
C'est le tout premier CD que j'ai acheté.
Sous.
De mes propres sous-sous à moi. J'avais payé 13 euros à l'époque.
Voilà. C'était déjà en euros?
C'était déjà en euros, ouais.
Oh, qu'est-ce que tu es jeune?
Ouais, c'est vrai. Pas du tout. Mais c'est vrai. Non, mais oui, je crois que c'était déjà en euros.
Il est sorti en 2001, donc
oui,
c'est le début de l'euro.
Tout à fait.
Ouais, parce que j'étais au collège, tout jeune. Et voilà, et puis l'aventure a commencé comme ça, avec ce premier album. Et c'est. Ça a marqué un peu un tournant dans. Avant, j'écoutais ce que mes parents écoutaient en fait. C'était pas vraiment ma propre musique à moi. Donc, heureusement, mes parents avaient une culture assez large, donc c'était assez enrichissant quand même, quoi. Du rock, du classique, un peu de jazz. Enfin, c'était vraiment hyper hétéroclite, quoi. Et là, c'est vraiment en fait un groupe qui m'a intéressé à plein de styles de musique parce que du coup. Leur album est très sont très enfin ils vont vraiment chercher des sonorités vraiment dans tous les genres et du coup je trouvais ça hyper complet et le fait que les clips soient animés ça faisait vraiment une œuvre complète, t'avais vraiment le dessin tout qui était c'était vraiment une œuvre globale, c'est ça que j'ai aimé dedans en fait dans cet album.
Et c'est marrant parce que tu dis que tes parents ils écoutaient un peu de tout, du jazz, du rock, du classique, et puis Gorillaz c'est vraiment un symptôme de la musique fusion. Ils
ouais.
mélangent tout, le rap, le rock, le jazz.
Je pense que c'est
le classique. Le classique.
C'est ça qui a fait que tu vois, je me suis vraiment.
C'est un.
Imprégné
finalement, de faire un mélange de ce qu'écoutaient tes parents. Et,
ouais.
Et puis il y a un côté hyper cartoon, pop qui...
C'est ça. Et puis là, j'ai vraiment l'âge, je pense, pour être déjà intéressé par le côté un peu animé du truc.
Ouais.
Et c'était, ouais, c'était vraiment une mini claque à l'époque. J'écoutais en boucle et c'est un album que j'écoute encore en boucle. C'est-à-dire que là, ça fait peut-être 2-3 ans qu'il est dans ma bagnole et je le lance une fois de temps en temps. J'arrête jamais de l'écouter, quoi.
C'est vrai qu'on s'en lasse pas.
Et ça fait partie des artistes que, dont à chaque fois, ils sont pas dans mes playlists Gorillaz de son. Parce qu'à chaque fois, je suis obligé d'écouter un album entier.
Mmh.
Et ça fait partie de ce genre d'album. Je suis obligé de lancer l'album, je l'écoute de A à Z. Je peux pas m'écouter un son par-ci par-là de Gorillaz, quoi.
Mais moi, c'est vrai que je l'ai réécouté parce que j'ai un peu le même rapport. Que toi à cet album, je l'ai acheté, j'étais au collège et c'était un peu un des premiers albums de musique un peu nouvelle qui était pas de la pop pour ado ou enfant ou ni de la musique qu'écoutaient mes parents. C'était un peu un truc de waouh, mais il se passe des choses dans la vie de la musique. Et bref, tout ça pour dire que j'arrête avec les digressions. Tout ça pour dire que je l'ai réécouté d'une traite récemment, alors que jusque-là, ces derniers temps, j'avais plutôt tendance à mettre 2-3 chansons par-ci par-là de temps en temps. Et là, je l'ai vraiment réécouté d'une traite, et c'est vrai que c'est comme ça que ça s'écoute, quoi. Il y a une espèce de. C'est hyper complet, il se passe plein de trucs. Et c'était vraiment, vraiment très chouette de me replonger après quelques temps dans cet album.
Et ça, c'est un truc qui est valable sur les 3 premiers albums. Je trouve que c'est des albums qui sont construits en albums. Et que maintenant qu'il y a Spotify et compagnie, on est plus sur la mode playlist, ils construisent plus du tout leurs albums comme ça. Et c'est ce qui leur manque à Gorillaz ces dernières années, sur leurs derniers trucs. Moi, je trouve pathétique. C'est qu'il y a plus un album avec un esprit album qui s'écoute en bloc comme ça.
Enfin, ouais. Ça se perd un peu avec à partir de Humans, ça se perd un peu et là ils ont carrément assumé le côté, je trouve, déconstruit avec Song Machine, où ils ont vraiment sorti les singles par-ci par-là et à la fin ils ont rassemblé le truc pour faire un album, malgré que moi j'ai quand même bien aimé Humans, j'avais pas trop accroché, j'avais accroché mieux celui d'après, c'était l'album avec Humility et...
Machin. Là.
Ah ouais, je sais plus comment il s'appelait celui-là. J'ai oublié le nom, bref. Et après, Song Machine, ça m'a un peu raccroché un petit peu, parce qu'il y a quelques sons qui m'ont un peu pris derrière. Mais ouais, c'est vrai que le premier, le deuxième, le troisième, c'est vraiment des... Ouais, c'est con, ils sont construits de la même façon. T'as vraiment un univers visuel et musical. Donc c'est archi cool.
Moi, j'ai une question technique. T'écoutais cet album dans ta chambre sur un poste où t'avais un baladeur CD de ouf malade comme tous les ados?
Et ben j'ai eu je l'ai écouté pas mal sur une chaîne IFI que j'avais eu à l'époque de la marque on ne citera pas. J'avais cité une marque comme ça, mais bref. Et non, ouais, et puis et ben, il m'a suivi pareil sur baladeur CD
Discman
qui avait le défaut de sauter dès que tu marchais un peu trop vite.
Exactement.
Les albums.
La bonne époque.
C'est ça.
Et parce que finalement, c'était marrant parce que j'avais réenregistré l'album sur une cassette que j'avais retrouvé un vieux Walkman à mon père. Parce qu'en fait, j'ai remarqué que sur cassette, ça sautait pas. Et du coup, j'ai remonté le temps et je suis repassé sur un vieux Walkman Sony à l'ancienne. Mais qui était génial en fait. C'était bien ces trucs-là, ça sautait pas du tout.
Il y avait quand même des techniques avec le Discman. Moi, je me souviens de le garder dans la main un peu droit et de créer une sorte d'équilibre un peu permanent pour pouvoir quand même danser avec. C'était tout un travail, mais...
C'est vrai que là, on parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître.
Oui, mais ça les fait rêver un peu finalement.
C'est ça, ouais.
Ouais, moi, la question, comme c'est le premier album que t'as acheté avec tes sous, les premières chansons que t'as entendues qui t'ont un peu... Qui t'ont un peu développé ta propre culture musicale, est-ce que Gorillaz en tant que tel t'a amené à écouter d'autres trucs? Est-ce que ça t'a ouvert des portes, comme par exemple c'est un groupe avec Damon Albarn, ça t'a fait découvrir Blur ou même complètement autrement, juste en te disant tiens, je peux découvrir de la musique moi-même si j'allais en découvrir d'autres? Est-ce que c'était un peu le premier pas dans ta propre culture musicale?
C'est vraiment ça. C'est que à partir de cet album, ça m'a vraiment un tournant où j'ai commencé à chercher un peu des sons par moi-même, mais en traînant un peu, tu vois, sur justement sur M6 le soir ou même après il y a eu l'apparition des chaînes un peu en plus, genre quand j'avais déménagé à Rennes, on captait les chaînes comme MCM, tout ça. Donc
MCM, la chaîne de clips.
Ouais, la chaîne de clips, tout ça. Et ouais, c'est vraiment à partir de là que j'ai commencé à me construire un peu ma culture musicale. Je crois que mon deuxième album après, ça devait être le premier album de The White Stripes.
Ouais.
Derrière, et puis là, c'est vrai que j'ai dérivé. Passé par des trucs un peu plus classiques pour l'époque. Genre, j'avais acheté le premier album, deuxième album de System of Down. Tout ça, ouais.
C'est marrant, c'est quasi que des. Ouais, du coup, tu découvrais beaucoup via le clip.
Via le clip à l'époque.
Parce que c'est vrai que les White Stripes avaient des clips aussi exceptionnels.
Exactement.
Réalisés par Michel Gondry. On a déjà parlé.
Ouais,
ici, si vous avez écouté tous les épisodes. System avec des clips comme Chop Suey complètement fou.
Ouais. Toxic City, tout ça.
Ouais.
C'est trop cool.
Et à l'époque. Gorillaz, ils avaient aussi ce truc, enfin, moins sur l'album Gorillaz, justement, mais à partir du deuxième, d'inviter plein de monde. Et moi, je sais que quand j'étais ado, bah, t'écoutes dans Plastic Beach le son avec Mos Def. Ah, bah tiens, je vais aller regarder un peu ce qu'il a fait, c'est cool. Ah, oh, putain, trop cool, Mos Def. Ah, oh, putain, il y a, je sais pas, Snoop Dogg qui fait l'intro. Bah, vas-y, je vais aller écouter Snoop Dogg. Ah, oh, trop cool, Snoop Dogg.
Mos Def que j'ai découvert après, qui jouait dans le film là, avec.
De Gondry. Il est sympa, Rebobiné.
Oui, c'est vrai qu'il y a. Ouais, tout à fait.
Mais je l'ai pas vu. Non, c'est celui où ça se passe dans l'espace. Là. Ah, merde.
Ah, oui, H2G2.
H2G2, ouais.
Ah, oui, exact, c'est vrai.
Ah oui, putain, la vache, c'est lui, quoi. <J'étais> merde. Excellent. Et artiste, ouais, d'ailleurs, quoi, j'ai découvert après Mos Def parce que j'avais adoré la voix du gars. Et finalement, en fait, j'avais déjà entendu 2-3 sons de lui, en fait, sans le savoir que c'était lui.
Oui, c'est vrai que c'est quelque chose qui a quand même pas mal tourné.
Et ouais, c'est bah ouais, dans Plastic Beach, pas mal les invités. Je m'en encore.
Bah, du coup, ce clip avec. C'est Mos Def, Bobby Womack, et ils ont mis Bruce Willis conduit une bagnole.
Ils sont comme ça dans une bagnole en mode gratos.
Là, c'était. C'est la fin des clips avec des gros moyens. On va tout mettre dans celui-là.
Dans le cachet de Bruce Willis.
Parce que je sais qu'ils avaient pas mal fait d'interviews là-dessus, Gorillaz, et je pense que ça a joué sur le fait qu'ils ont perdu un peu aujourd'hui de leur superbe. C'est qu'à partir de cet album-là et un petit peu de la fin des chaînes de clips, je sais pas s'il existe encore trop les chaînes de clips à la télé, c'est qu'on mettait moins de thunes, les boîtes de prod mettaient moins de thunes dans les clips et qu'ils se reposaient quand même vachement sur ça pour le com. Et que maintenant, les gens vont plus sur Spotify que sur YouTube, la musique et le clip a moins d'impact.
Ouais, je pense que le clip a encore un petit peu d'impact, mais c'est pas du tout la même place.
En tout cas, ils y mettent pas autant de pognon. Voilà, quand tu fais du clip animé,
Oui.
C'est plus via les plateformes, mais c'est vrai que c'est pour ça qu'il y a eu un retour un petit peu avec Sound Machine, parce qu'ils ont quasiment clippé tous les sons qu'ils ont fait dans Sound Machine, en fait. Donc ils sont revenus un petit peu avec celui-là, mais ils m'ont reperdu avec l'album encore derrière. après, voilà, c'est vraiment. Parce qu'ils prennent à chaque fois vraiment des partis pris musicaux. Donc c'est vrai que soit t'adhères à la suite, ou soit tu décroches un peu, quoi. Okay. Mais après, rien ne veut dire qu'ils vont prendre un autre virage derrière qui va faire que tu vas raccrocher le wagon. Et puis c'est ça qui est bien, c'est un peu la liberté, quoi.
Oui, et c'est logique qu'ils aient aussi perdu un peu de la folie de leurs 20 ans. Maintenant, il a 50 berges.
Des artistes qui feraient tout le temps la même chose, ce serait un peu chiant, quoi, techniquement.
Est-ce que t'as eu la chance de les voir en concert,
Tout à fait. Pour l'album Humans. Et après avoir écouté l'album Humans, j'avais un peu peur qu'il fasse juste l'album Humans, que j'ai pas tout. Je l'ai réécouté un petit peu derrière, je l'accepte un peu plus maintenant, tu vois. Mais au début, j'avais eu un peu de mal avec celui-là. Il m'a fallu plusieurs écoutes. Mais non, ça va, ils ont vraiment fait un medley de leur chanson, tout ça. Puis il y a vraiment une bonne ambiance de concert, c'était un peu cool. Et bien, puis moi j'étais en plus, j'étais un peu content d'être dans les gradins parce que tu vois vraiment une vue d'ensemble et globale. Et ça m'aurait peut-être fait, j'aurais pas vécu la même chose, je pense, en étant dans la fosse que j'aurais eu envie de pogoter sur certaines chansons. Et après, j'ai regardé, j'aurais été un peu le seul à pogoter, ça pogotait pas des masses. Ça m'attriste un peu des fosses qui pogotent pas.
Je suis comme toi, comprends. C'est assez frustrant.
Ouais, secouez-vous les gens, merde. Faites des choses.
Est-ce que leurs shows, du coup, sont... alors moi, je les ai jamais vus, mais est-ce qu'ils sont comme on les imagine, avec de l'animation sur grand écran, un vrai jeu de scène très théâtral, etc.
C'est ça. Alors, il était moins travaillé, parce que j'avais vu des lives de Plastic Beach, où c'était vraiment travaillé de ouf. Là, c'était, vu que c'est un medley, du coup, ils ont fait des jeux un peu avec les écrans, tout ça. C'était assez sympa. Mais voilà, c'était pas au niveau de ce que j'avais vu sur certaines scènes. Après, bon, ça dépend peut-être des tournées, des moyens qui sont développés. Tout ça.
Ouais, je pense qu'ils ont deux scénos. Ils ont celle quand ils font des concerts en salle, concert de Gorillaz, et celle en festival. Mm. Où il y a moins. Enfin, moi, je les ai vus à Vienne. Je pense qu'il n'y avait pas toute la scène. Donc, tu avais des espèces de clips, mais pas, c'était pas, tout reposait pas non plus sur le visuel.
Ouais.
Enfin, non, adapté à la salle. Est-ce que tu as des choses encore à nous raconter sur Gorillaz, ton rapport à Gorillaz?
Bah, je les aime beaucoup. je les remercie pour ce qu'ils ont fait.
J'ai une question, mais c'est aussi. Enfin, je vais le former sous forme de question, mais c'est un peu pour étaler ma science, donc je triche. Mais est-ce que tu sais d'où vient le clung, 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 clung
de Clint Eastwood? Ah non, ça m'intéresse de ouf, j'adore les samples.
C'est un son préenregistré d'un clavier pour enfants en mode rock.
It just came like that. That's it, that's the preset. It's the Rock One preset. But it gets even more. Wholesale.
Et il y a une vidéo de Damon Albarn tout fier de nous montrer qu'il fait juste clic sur le clavier, bouton rock, il appuie sur un bouton et ça fait clung, 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 clung.
Excellent.
Et c'est devenu l'hymne absolu de Gorillaz, mais c'est vraiment le, c'est vraiment tout pompé à un clavier pour enfants.
Tu vois, tu me parles de samples de d'où viennent de certains sons comme ça, et en ce moment je m'amuse à faire ça, si tu veux. Et ça me fait découvrir des artistes, genre là j'ai découvert l'habit Sifre, ou l'habit c'est le celui qui a fait, donc ils ont pris une de ses chansons pour faire le sample de la du son d'Eminem, My Name Is,
okay.
My Name Is, et c'est vraiment le même morceau de piano, ils ont à peine rien retouché quoi.
Oui, oui.
Et ce qui est marrant, c'est que ce morceau, en plus, il commence pas du tout comme ça. Mm. Et il se stoppe. Et là, t'as le sample qui arrive. Doudint, doudint, doudint. Et après, le mec, il chante dessus. T'as le mec qui chante sur Eminem. Enfin, c'est lui la base, quoi. Mais ouais, et ouais, en ce moment, je m'amuse à faire ça. Ouais. Je vais à la base d'un truc. Et du coup, ça me fait découvrir d'autres artistes.
Bah, c'est passionnant ouais, d'explorer les samples. Ça, ouais. Surtout quand ils sont très peu retouchés. Ça te donne un nouvel univers musical. Et ça te fait mieux connaître aussi l'artiste de base, je trouve. De voir où est-ce qu'il va piocher ses références.
Ces mecs, ils ont des références. Ils vont chercher dans des sons des années bisextiles. Comme Dr. Dre qui a samplé du Charles Aznavour.
Oui, voilà.
C'est... Le mec, d'où il est, de son continent, il est venu chercher un vieux chanteur français. En plus, c'était une vieille chanson.
Mais c'est parce que tu fais des bacs de vinyle et tu prends les moins chers en souvent. Donc au final, tu tombes sur des trucs
il a une connaissance musicale. C'est impressionnant. Quoi. Enfin, on divague.
Ouais,
on est là pour ça. Hein. Est-ce que vous avez des questions encore sur Gorillaz? Est-ce que tu veux passer à l'œuvre suivante? Peut-être si pour finir sur Gorillaz, parce qu'on en a parlé rapidement, mais il y a aussi tout l'aspect visuel donc de Jamie Hewlett. Est-ce que ça t'a amené aussi à lire ses BD, à explorer un peu plus ou,
non, j'ai pas trop exploré.
Ouais, t'es resté purement sur la musique.
J'ai pas trop, mais par contre, ça m'intéressait de ouf.
Bon, je te les prêterai.
Ouais.
Voilà, on peut passer à l'œuvre suivante. De quoi as-tu envie de parler dans un second temps?
Parlons Fight Club. Parlons bagarre.
Ok. Alors, est-ce que tu veux nous présenter l'œuvre ou la manière dont tu l'as rencontré?
Eh ben, c'était assez marrant la manière dont je l'ai rencontré. Qu'en fait, moi j'ai mis. Donc j'étais quoi? Je devais avoir 14-15 ans. Ouais, je crois que ça devait être 14. Le monde était encore dans ma tête beau, tout était. Nickel. mais c'est vraiment une transition. Hein. C'est vraiment pour moi, j'étais hyper positif. Tout ça, pour moi, tout était en fait hyper optimiste. Tout était joli. Et je mets ce film en mode ah tiens, un petit film de bagarre sans trop réfléchir le soir. Et puis moi, j'avais découvert Brad Pitt avec Pulp Fiction. Pas avec Pulp Fiction, avec n'importe quoi, avec Snatch.
Oui.
J'ai dit, il est trop cool cet acteur. Et là, je l'ai vu, putain, il filme de bagarre avec lui. Alors, moi, j'ai vu le côté, il sait s'il se bat comme dans Snatch. Je mets le film, et là, je me vois vraiment rester bloqué devant. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je suis en train de regarder là? En fait, c'était hyper. Hyper beaucoup plus profond en fait qu'un simple film de baston.
Pourquoi toi et moi, on sait ce que c'est qu'un duvet à ton avis? Parce que c'est essentiel à notre survie, dans cette existence précaire que nous menons? Non. Alors on est quoi? On est que des consommateurs?
Tu as dit.
On est des consommateurs. On est des sous-produits d'un mode de vie devenu une obsession. Meurtre, banditisme, pauvreté, ces choses ne me concernent pas. Ce qui me concerne, moi, ce sont les revues qui parlent des stars. La télévision avec 500 chaînes différentes, les slips avec un grand nom marqué dessus.
D'ailleurs, ça ne traite quasiment même pas, c'est même pas ça le but premier. Donc
oui, c'est beaucoup moins un film de baston que, ouais. qu'un
et
film.
Et à partir de là, j'ai eu vraiment un virage de... Eh mais en fait, la société, c'est vraiment de la merde. Et en fait, c'est vraiment fait binaire. Tout était blanc et tout est devenu noir derrière. Ça m'a vraiment fait prendre conscience de plein de trucs pourris.
Et puis c'est le bon âge pour commencer à devenir un peu dark, quoi.
Voilà. Et là je suis rentré dans ma période punk grunge derrière, où la société c'est nul, tout est de la merde. Et en grandissant, j'ai parti sur un gris, tu vois. Tout n'est pas ni tout blanc, ni tout noir. Et voilà, tu te commences à te construire un peu derrière. Donc c'est vrai que mine de rien, ça a pas mal joué sur mon... en fait, j'étais vraiment dans la période où ça te fait... prendre conscience de plein de choses. C'était vraiment, je pense que c'est vraiment la bonne période pour regarder ce film en fait.
Là, ah mais complètement, ouais.
C'est pas mal, je sais pas à quel âge faut le. C'est 12 ans peut-être
La limite, ah,
j'en ai
la limite
dire, d'âge. Ouais, c'est bien le. Ouais, ça doit être 12
oui,
ans.
Je pense aujourd'hui, que c'est 12 parce que. Mais.
Ouais, côté sûr. Psychologique, je pense, Jack, tu captes peut-être pas à 12 ans quoi. Derrière.
Oui, t'en retires pas grand chose, je pense, ouais. À 12 ans.
Ouais.
Mais. Enfin, d'ailleurs, c'est une question qu'ont dû se poser les diffuseurs, en tout cas en France. Effectivement, ils le vendaient comme un film de bagarre.
Oui.
Ils ne savaient pas du tout quoi en foutre de ce film quand il est sorti au cinéma. C'est pour ça qu'il s'est éclaté.
Mais en France,
c'est
d'ailleurs aussi.
C'est
gros, parce que, je crois que c'est un gros échec, je crois, aux États-Unis, mais la.
C'est un film qui est devenu culte avec les vidéoclubs.
Ouais, c'est ça. À l'international, il a pris du galon quoi, derrière, quoi.
Oui, mais puis aussi, une fois que les gens ont su voir un peu la substance du film, quoi. Après, je crois que le bouquin, parce que c'est quand même une adaptation,
oui.
Je crois que le bouquin avait quand même eu plus de succès à la base, et que l'adaptation, effectivement, comme ils l'ont présenté comme un film de baston, je pense que les amateurs du livre se sont dit, bon, ils ont complètement oublié le bouquin.
Oui, c'est ça.
Les gens qui voulaient un film de baston se sont dit, c'est quoi ce film, il n'y a pas de baston.
Même si le... Enfin, moi, j'ai envie de dire, j'avais essayé de lire le bouquin. Moi, j'ai un souvenir d'un truc, c'est hyper, c'est presque un peu abstrait comme...
Ouais.
Moi, du coup, ça m'a... J'en ai pas gardé grand-chose du bouquin.
J'aime beaucoup le bouquin de
Pagnot. Alors que le film, enfin, même si l'histoire, c'est un peu perturbant, machin, c'est quand même... C'est hyper accessible.
Oui, bah, c'est sûr que le bouquin est beaucoup moins accessible. Il est écrit... c'est de l'écriture presque... Enfin, je sais plus comment ça s'appelle, mais un peu comme... comme Kadik, de l'écriture un peu automatique, où il mélange un peu plein de choses, il fait des sortes de patchwork de choses qu'il va noter sur des calepins. C'est pour ça que ça paraît un peu abstrait.
Non, mais c'était à mon époque de je lis tout en anglais, et ça, c'est la bonne idée, quoi. C'est pour ça que j'en ai pas retiré grand-chose.
D'ailleurs, est-ce que tu as lu le livre? Est-ce que tu t'es intéressé au bouquin? Non.
Et vous qui l'avez lu, du coup, c'est ça vaut le coup de le lire, même après avoir vu le film? Il y a vraiment, c'est vraiment différent du...
Moi, je trouve que, alors, dans la forme, en tout cas... Parce que le film, il a quand même une forme qui est particulière et il arrive à nous montrer ce qu'il a envie de nous montrer via son cinéma parce qu'il est quand même exceptionnel comme metteur en scène. Et le bouquin, ouais, dans son côté, comme dit Sylvain, un peu abstrait, mais j'ai envie de dire aussi très un peu métaphysique, quoi, qui va essayer de jouer avec le lecteur. Je trouve que c'est passionnant parce que c'est un bon auteur, Palahniuk. Je trouve qu'il a une plume qui est. À la fois cynique, à la fois un peu trash et en même temps très un côté un peu spirituel moi qui me parle. Moi j'ai un très bon souvenir du bouquin et de la suite qu'il a écrit en bande dessinée aussi.
Tout à fait.
Qui est vraiment à lire si on a bien aimé le film. On peut le lire après le film.
Il a deux fins alternatives dans le comics, une pour le livre, une pour le film. Il a tout à fait accepté le film comme faisant partie de l'œuvre.
Mais et Palahniuk adore le film d'ailleurs. Enfin, de toute façon, je crois qu'il a été consultant dessus. C'est vraiment. Bien. Voilà. Il est tout à fait ravi que ce soit adapté. Et c'est vrai que c'était une très bonne chose de l'adapter, je pense. Qu'est-ce qui t'a. Parce que le film, il soulève quand même plusieurs thèmes. Mm-hmm. Tu saurais me dire lequel t'as le plus marqué à l'époque ? Parce que tu dis que ça. Enfin, effectivement, il a un côté très cynique, le film, et que ça t'a un peu fait. C'est un peu montré que le monde pouvait ne pas être tout rose, comme tu le pensais. Mais sachant qu'il y a plusieurs strates de thèmes, ça parle de plein de choses, c'est laquelle qui t'aurait le plus marqué à l'époque, ou aujourd'hui d'ailleurs ? Il y a l'anticapitalisme, il y a la dépression, il y a le.
Je crois que c'est le. C'est d'abord le côté capitaliste sur consommation de. En premier, et le côté un peu traitement de la dépression derrière, qu'on peut vraiment. Que pour moi, en fait, à l'époque, t'étais tellement optimiste que j'arrivais pas à comprendre comment on pouvait ne serait-ce qu'être dépressif.
Ouais.
Et. Bon, après, je me suis pris des claques dans la gueule à l'adolescence qui m'ont fait comprendre que ah ouais, c'est ça. et d'abord le côté capitalisme, je me souviens. Bon, c'est ce qu'a un peu traité en premier lieu, je trouve.
Oui, c'est le gros projecteur est là-dessus.
Voilà, le gros projecteur est là-dessus. Et après, derrière, ouais, tout cette. Voir quelqu'un sombrer un peu dans ses démons. Jusqu'à se créer un alter ego.
Ouais.
Et c'est ça te fait prendre conscience que c'est possible de se retrouver dans ce genre d'état, quoi. Mais j'ai eu des expériences à part, pas à ce niveau-là, mais eu des expériences un petit peu après. Ça fait grandir, c'est bien.
Ouais. C'est neuf qui t'a suivi, du coup. C'est vraiment
ouais, ça m'a suivi un peu derrière ou après, ouais. Mais, ouais. Voilà.
C'est pas encore un film que t'as montré à tes enfants ?
Non. On va attendre un petit peu.
Ouais,
mais j'ai hâte de leur montrer, tu vois, c'est comme,
oui.
Comme plein de choses. Hein. J'ai hâte de leur montrer des Tarantino, j'ai hâte de leur... Et on va, bah, ils ont...
Chaque chose en son temps.
À 11 ans, Tarantino, c'est encore un peu tôt.
Laissez profiter de leur monde de bisounours encore
un petit peu. C'est ça. Malgré, tu vois, alors, les deux grands, je leur ai fait voir déjà Les Seigneurs des Anneaux.
Oui.
Ils ont bien kiffé et hyper heureux de leur montrer ça. Ça fait un bien fou. Et là, le grand a vu récemment là, les Batman de Nolan, mais pas le dernier. Et il a vu Begin et The Dark Knight.
Oui, déjà un peu plus sombre au final
ouais.
Que le Seigneur de Nolan.
Je lui ai accompagné le truc.
Ouais.
Je voulais qu'il l'accompagne. Il a regardé avec moi. Donc, j'ai dit voilà ce que c'est un. Qui me parle souvent de psychopathe en mode marrant, voilà ce que c'est.
C'est
voilà. Vraiment fou et incontrôlable.
C'est pas si marrant que ça.
Pas si marrant que ça, du coup.
Fight Club, il a aussi ce truc. Il est sorti à l'époque de la méga hype Brad Pitt. Il y a Helena Bonham Carter, pareil, qui commence à vraiment tourner. Il y a les visages, il y a Jared Leto, Edward Norton. Un peu moins, mais bah encore que si, parce que c'était pareil, il y avait American Historics et compagnie.
Oui. Oh, il était aussi au plus haut.
C'est juste après American Historics, je crois.
Il me semble bien,
ouais, je sais plus. Pour moi, effectivement, c'est ces acteurs qui ont accompagné mon adolescence de personne qui a aujourd'hui
une
centaine d'années.
Ouais.
Aussi. J'ai pas vraiment de questions à poser, c'était un commentaire.
Non, ce qui est intéressant, c'est que même dans le spectre du cinéma, il y avait ce truc-là de tous, ils se sont retrouvés dans ce projet qui est vraiment qui va à l'encontre de Hollywood, du star system, de qui bouleverse un peu tout ça. Le principe du film, c'est un peu détruisons tout ça. D'ailleurs, je crois que c'est, je sais plus si c'est Edward Norton ou Brad Pitt qui le dit quand ils gagnent un prix ou au moins qu'ils sont nominés pour une. Je sais plus si c'est les BAFTA ou j'ai plus en tête, mais qu'il le dit sur scène. Vous nous donnez un prix pour un film qui en fait a envie que tout ça explose. C'est bizarre. Et ça, c'est des trucs finalement, comme tu le dis, il y a l'œuvre de base, mais elle a aussi découlé dans la réalité. Je pense pas que sur toi, sur plein d'autres gens, et puis aussi sur le système mis en place.
Tant mieux.
Est-ce que tu te sens encore anticapitaliste aujourd'hui?
Un peu quand même. On essaie de faire attention, quoi.
Bien sûr.
Parce que des fois, bon, on se fait avoir quand même. Hein.
Eh ben, bien sûr.
Est-ce que tu recommanderais encore aujourd'hui ce film à des gamins de 15 ans qui veulent découvrir? Moi, je l'ai montré à des élèves il y a 2 ans qui avaient 14-15 ans. Franchement, ils en avaient quand même pas grand-chose à secouer. Ça les a pas du tout autant marqués que moi, ça avait pu me marquer. Est-ce que pour toi, ça reste une œuvre qui est encore importante à montrer ou en tout cas intéressante à montrer ou plus tellement?
Malheureusement, je pense qu'on peut encore la montrer parce que ce dont on parle dedans, c'est encore d'actualité, quoi. Sur pas mal de sujets. Hein. Donc, on peut encore la montrer. Ouais. Pour l'avoir vu il y a pas si longtemps que ça, il y a un mois ou deux, là. J'ai toujours autant. Bon, il y a quelques trucs qui ont un peu vieilli, mais au niveau visuel, mais sinon, c'est encore cool à voir. Je trouve qu'il y a une bonne ambiance de film. Et le côté hyper charismatique de Brad Pitt. Qui m'a touché ma corde sensible de l'époque.
Même si ça parle d'une époque où il y avait les solutions. Parce que le truc final, on fait exploser tous les bâtiments des grandes banques et tout pour repartir à zéro, qui fait un peu fantasmer de dire mais oui, mais en fait, il faudrait trop faire ça.
Ouais.
Bah, aujourd'hui, c'est plus possible, quoi. Il n'y a pas un truc magique comme ça à faire, parce que c'est tellement réparti sur tous les ordinateurs du monde.
Ouais.
C'est une époque plus simple, finalement.
Oui, on pouvait juste tout faire péter.
Il y a trop de trucs à faire péter.
Eh bah, ben, je te propose qu'on passe à la troisième et dernière œuvre, Romain, qui était Akira, si tu t'en souviens pas. Parce que tu es en train de fermer les yeux. Donc.
Ah, parce que c'est vraiment un gros banger.
Parce que tu entends d'ici les chants de...
Yeah. Da 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 da.
Ah.
Dung, 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 dung.
J'ai hâte.
C'est début de générique.
Alors, raconte-nous tout sur Akira, et peut-être que cette fois-ci, on va commencer par... Raconte-nous un peu de quoi ça parle.
Eh ben, Neo Tokyo, ça commence... Le film commence sur une explosion. Boum. Appuie Tokyo.
C'est ça.
Petit traumatisme, je pense, de la Seconde Guerre mondiale remis à l'écran. Et donc, on voit... Donc, on repart sur une cité... reconstruite sur la base du cratère de l'ancienne dans une société qu'on pourrait qualifier d'aujourd'hui avec des grands écarts sociaux au bord de la guerre civile avec plusieurs clics parce que t'as les puissants, t'as le côté t'as l'armée, t'as toute cette jeunesse qui essaie de s'en sortir dans tout ce merdier, la partie de tous ceux qui sont adeptes de la religion là, dans le film, tout ça, et tout ça crée un espèce de medley de gens qui comprennent pas trop, et du coup il manquait plus qu'une petite étincelle pour tout faire flamber. L'étincelle s'appellera Tetsuo.
Tout à fait. Alors, quand est-ce que tu as vu ce film? Parce qu'il est sorti en 1991, t'étais pas très grand.
Je l'ai vu beaucoup trop tôt.
Ah. Et bah, vas-y, raconte-nous tout.
Je devais avoir 10 piges, je crois, 10-11 ans. Et c'était le. Moi, j'avais. Je dirais que c'est le premier anime que j'ai vu en tant qu'anime. Parce que j'avais tout, comme tout le monde, c'est des Dragon Ball, les premiers mangas qu'on a eu.
Qui ont beaucoup plus d'humour qu'Akira.
Voilà. Et me voilà, maté, mon père l'avait enregistré en cassette. Père, on est fan de ce manga. Il avait piraté. Il l'avait enregistré sur Canal. Ouais, je dénonce, ouais. Et du coup, me voilà regardé. Donc, il l'avait mis en. Il avait fait comme si on l'avait acheté, la VHS. Il avait collé le truc dessus. Il avait photocopié l'image. Il l'avait mis dessus, Akira. Wow, ça a l'air génial, mec. Il a un gros pistolet laser sur la pochette. Ça a l'air hyper badass. me voilà à mettre ce film et là je me suis pris une, je me souviens malgré que je pense à mon premier visionnage, j'ai pas tout capté le fond
normal.
Du manga, ce qui est logique. Je me souviens m'être pris une putain de claque visuelle à l'époque, et pour m'en rendre compte à l'époque, c'est vraiment voilà, qu'il y avait vraiment du niveau. Et et à chaque fois je le revoyais, ce manga, mais il y a rien, il y a rien qui égale cette œuvre.
C'est un vrai chef-d'œuvre de l'animation.
Et à chaque fois je me le remate, j'ai rematé juste avant, juste avant d'être venu, je me suis maté dans le train et je dis putain la vache.
Oui, c'est vraiment une claque visuelle à chaque fois.
Je trouve qu'il y a des animés qui sortent aujourd'hui qui ne l'égalent même pas. Ils n'arrivent même pas encore à égaler ce manga.
Est-ce que tu as déjà vu un peu des images du making of?
Non.
C'est passionnant de voir la minutie et la précision avec laquelle ils ont fait chaque planche, chaque décor. C'est vraiment des peintures géantes, millimétrées.
Je crois que j'ai vu des stats je crois qu'ils ont dépensé genre plusieurs millions à l'époque dans un animé, ce qui se faisait pas pour des films. Et là ils ont claqué ça dans un animé, quoi. Et je crois qu'ils ont inventé des couleurs pour le film. Ils ont,
c'est exceptionnel.
Ils ont vraiment pété les plombs, quoi. Et je crois qu'il est pas en 26 images secondes, un truc comme ça, qui n'était pas normal à l'époque. En fait, il a une fluidité que les autres n'ont pas, parce qu'il y a plus d'images par seconde.
Je crois que tu as raison, ça doit être du 25 plutôt que du 26.
Et ça se ressent vachement. En fait, quand il prête attention après, tu vois vraiment la fluidité des personnages, du mouvement, et la façon de traiter plein de choses. Genre, dans des animés comme ça, un peu apocalyptiques, tu as rarement le point de vue humain de la population à l'instant T. Tu vois, c'est souvent vu de loin, ouf, ça explose, bam. Là, tu vois, par exemple, dans la scène, par exemple, où t'as le pont qui explose, là, tu vois des humains essayer de s'en sortir, et tu vois, au début, hop, ils arrivent un petit peu, et là, bam, t'as la suite qui s'écoule, et tu vois ça te ramène à l'impuissance que t'as par rapport à ce genre d'événement de catastrophe naturelle. Et là, t'as ce point de vue-là dans le film, qui est rarement traité, je trouve, dans des œuvres, et tu vois vraiment qu'on ne, par rapport à ça, on n'est rien. Par rapport à une toute puissance, que ce soit divin un peu dans le truc là, ou que ce soit par rapport à des catastrophes naturelles, si ça nous tombe dessus, je trouve que ça redescend un petit peu dans ton ego d'humain. Peut-être qu'on a un peu cet ego un peu tout puissant, on est un peu au-dessus de tout, et là ça te. Non, c'est rien du tout en fait.
Alors, comment ça va aujourd'hui? Tu te sens mieux?
Oh, j'ai fait un rêve.
Un rêve?
La ville était recouverte d'une ombre noire. Elle s'est mise à tomber en ruine. Les habitants ont été pris de panique. Et là, c'est arrivé. Akira est revenu nous rendre visite.
Akira?
La ville a été détruite. Beaucoup, beaucoup de gens ont commencé à mourir.
C'est marrant que tu dises ça, parce que du coup... ce qui est souvent dit, comme c'est une adaptation d'un manga, qui est quand même un manga en 6 volumes, qui explore beaucoup la psyché des personnages secondaires, qui va vraiment aller dans la profondeur des choses. Le film dure 1h20 et quelques, je crois. Enfin, il est très court. Il traite pas du tout ce qu'il y a dans le manga. Mais c'est marrant que tu dis ça, parce que du coup, je pense que t'as ressenti... C'est un film qui est beaucoup plus sensoriel, beaucoup plus sur l'émotion. Et c'est vraiment ce qu'il a voulu faire une sorte de fresque très, très visuelle, avec une musique très prenante, passionnante d'ailleurs, et qui te fait ressentir les choses plus qu'il va te les expliquer.
Et c'est pour ça que j'ai vraiment hâte, parce que j'ai toujours pas lu le manga, c'est partie de mes projets de vie, parce que je sais que c'est traité complètement différemment en fait, mais je suis content et parce que de connaissances qui ont lu et vu, ils m'ont vraiment dit c'est vraiment 2 heures à part entière, mais qui se savourent autant l'une que l'autre, quoi.
Je suis assez d'accord avec ça, ouais. Complètement.
C'est vraiment... j'ai eu la chance de le voir. Il l'avait ressorti au cinéma il n'y a pas si longtemps que ça, là.
Oui, en 4K.
Et oh là 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 là.
C'est magnifique.
Magnifique. Et parce que j'ai pas pu le voir au cinéma, forcément, j'ai pas l'âge requis du tout. J'étais petit, j'avais 2 ans.
Ça aurait été un petit traumatisme.
Ouais, un petit traumatisme de... Bon, je propose, j'aurais...
T'en serais pas souvenu.
Non, je t'en serais pas souvenu, j'aurais pas retenu grand-chose.
Je sais même pas s'il y a eu une sortie France
au cinéma.
Il y en a une. Il y en a eu une, ouais. Okay. C'est pas du exploitation de dingue, mais il y a eu une sortie française. Ouais.
Et ça a été vraiment. J'ai eu des frissons, quoi. J'ai vu ça au cinéma. Je me souviens dès les premiers sons d'instruments, là, je sais plus comment ça s'appelle, c'est un instrument où il tape sur des tubes. Là. Tu vois, c'est de la percu. T'as les poils qui s'irisent et tout.
On mettra la vraie musique.
Non, non, si je chante, c'est pour pas avoir à faire de montage. En fait.
Et ouais, non, c'était vraiment une dinguerie, quoi.
Sylvain, toi, t'as découvert l'anime après avoir lu le manga, à l'inverse.
Ouais, j'ai tout découvert sur le tard parce que je me suis mis à lire les mangas genre l'année dernière et je les ai achevés fin de l'année dernière. Et du coup, j'ai regardé l'anime que j'avais pas du tout vu là, quelques jours. Et moi, j'étais un peu frustré de la simplicité de l'histoire par rapport au manga qui est presque un peu trop complexe. Le manga, j'ai prévu, il va y avoir un moment donné, je vais le relire un peu plus rapidement pour reprendre. Il y a tellement de personnages différents, tellement de factions différentes que pour tout assimiler, c'est lourd. Et là, du coup, c'est quand même. Enfin, moi, j'ai trouvé ça un peu simpliste. Et visuellement, j'ai été beaucoup plus touché par les planches du manga qui sont d'une précision. Et un niveau de détail absolument incroyable. Et je sais que c'est un dessin qui me touche beaucoup plus que celui qu'on voit dans l'anime. Donc visuellement, ça m'a moins frappé que le manga, mais ça c'est
propre. Oui, bien sûr.
Je crois qu'il y a eu des...
Ouais, super, comme ça on t'entend pas. Ouais.
Je crois qu'il y a eu des problèmes de production, en fait, de toute manière, parce qu'il devait sortir le film après avoir terminé le manga, mais il prenait tellement de temps, justement, à développer son truc, à l'étirer, etc., que en fait, il a commencé à bosser sur l'anime en même temps qu'il faisait le manga, qui était du coup plus ou moins en pause. Il y a une fin à l'anime qui est du coup pas tout à fait la même que dans le manga. Enfin, ça, c'est ce qui fait que c'est deux œuvres assez distinctes. Mm. Voilà.
J'ai bien la hype en tout cas de commencer le.
Bah, tu nous diras ça dans la saison 2 quand on t'en
parle. Le manga.
Moi, est-ce que ça t'a ouvert du coup à toute la Japanime, à tout ce monde infini?
Ça m'a ouvert sur de la Japanime de grand.
Ouais, voilà.
En fait, pour te dire, après cet animé-là, je crois que le deuxième long métrage que j'ai vu, c'était Ghost in the Shell. Et
de danse aussi.
Ouais. Mais c'est pareil, je l'ai vu un petit peu tôt. J'ai bien aimé le côté futuriste, polar, un petit peu du film. Et après, j'ai compris, en le regardant un peu plus grand, le côté psyché derrière de qu'est-ce qu'est l'âme par rapport au corps, tout ça, face tout le traitement de la vie derrière. Et ouais, ça m'a vraiment ouvert sur ce genre d'anime. Je crois qu'après, j'avais enchaîné avec des. Les Evangelion, je crois. Ou ça. Enfin,
alors, voilà, si vous êtes intéressé par Evangelion ou Ghost in the Shell, nous avons l'épisode 2 avec Mathieu qui ne parle que de ça pendant une heure.
Ah, mais oui, c'est vrai, ouais.
Et on fait une aparté sur Akira. Et ici, on parle d'Akira, on fait une aparté sur Ghost in
the
Shell.
Comme quoi. J'étais content qu'il la traite.
Ok. Les gars, vous avez des questions sur.
Bon, je crois que finir sur une note d'autopromo, c'est toujours bien. Hein.
T'as choisi trois œuvres qui se suivent complètement chronologiquement. Enfin, on est années 91 avec Akira.
Ouais.
D'ailleurs, non, c'est pas plus tôt. Non, 91, ça doit être la sortie France. Il me semblait que c'était 88.
Ah oui, c'est la sortie France.
Moi, j'ai découvert plutôt fin 90.
Voilà.
Ouais.
Mais des choses que t'as découvertes à peu près dans ces eaux-là, quoi.
C'est ça.
La préadolescence.
C'est la préadolescence, adolescence. C'est là où je commence un peu à me construire.
Comme disait Jules dans l'épisode précédent, c'est vrai qu'on va avoir des invités qui vont nous parler d'œuvres qui ont marqué leur enfance ou leur préadolescence, d'autres qui vont plutôt nous parler d'œuvres qui ont marqué leur présent ou récente vie. T'as l'impression que c'est un moment qui a été virage pour toi, la préadolescence?
Bah ouais, là c'était vraiment un vrai virage, quoi. Je me suis un peu construit derrière, un peu comme ça, quoi.
Et là, t'as choisi Gorillaz, il y a un côté un peu cartoonesque, mais aussi un petit peu à la Tim Burton, un petit peu marionnette, zombie, etc.
Ouais, alors, parce que t'as, ouais, t'as un petit côté sombre derrière, quoi, comme de ce qui est traité, tout ça.
Donc pour toi, le virage, ce qui t'a aidé à te construire, c'est un peu des trucs un peu plus dark.
Ça m'a mis du noir dans mon blanc. Pour finir sur 50 nuances de gris.
Dit-il avec une magnifique salopette blanche immaculée et un petit pull noir en dessous quand même.
Pour rappeler qu'il y a un peu de noir en nous. Non, mais finalement, c'est ça, hein, c'est l'assemblement des deux. Il faut de tout pour faire un monde.
Il faut de l'ombre et de la lumière.
De l'ombre et la lumière.
Voilà, c'est beau. J'ai envie de chier. Bah moi, je vous propose de conclure sur cette haute note philosophique, ouais, peut-être. À moins que tu aies quelque chose à nous raconter. Je peux te poser la même question que pour Fight Club. Celui-là, tu ne l'as pas non plus encore montré à tes enfants, je suppose.
Je vais bien attendre.
Effectivement, ça...
Je pense qu'on va plutôt attendre sur la quinzaine, je pense.
Ouais,
c'est pas mal, la quinzaine.
Parce que moi, comme toi, j'avais découvert avec le comic, le comics du coup, parce que c'était les éditions américaines, les éditions colorisées par les Américains en format cartonné en France.
C'était trop stylé.
Et je les lisais pas dans l'ordre parce qu'ils les avaient à la bibliothèque du village, mais du coup, ils avaient jamais le bon tome. Donc j'ai commencé par 11, après j'ai dû lire le 14, je suis revenu en arrière, etc. Et ils avaient toujours le même qui devait être en fond. Où on a la transformation de Tetsuo qui devient une sorte de blob bébé géant tout rose, et j'étais complètement abasourdi par ces images qui m'ont bien traumatisé quand j'avais 8-9 ans.
C'est
je pense,
un petit trauma.
C'était, j'étais à la fois fasciné, à la fois écœuré par ce que je voyais.
C'est exactement ça, de l'écœurement, de la fascination.
Donc attendons un petit peu pour les enfants.
Oui,
quand même.
Je pense 15 ans, c'est pas mal. Ouais.
Mais par contre, effectivement, lui, pour le coup, je l'ai aussi montré à mes élèves. Je leur montre un film. Et ça a très très bien fonctionné. Ils ont adoré. Il y en a qui l'ont fini chez eux.
Ouais, trop
vous.
Bien.
Ouais, ça a bien marché.
Bon, c'est quel espoir.
Peut-être. Après, la Japanime, c'est toujours à la mode, en fait. Enfin,
oui.
Du coup, c'est des codes qui, mine de rien, leur parlent encore.
Et Akira reste un ultra classique du manga. Et c'est vrai que le manga, elle va en poupe depuis une petite vingtaine d'années.
Tout à fait. Est-ce que tu peux nous refaire une note philosophique sur le gris et le noir et le blanc, et comme ça on conclut là-dessus?
L'ombre et la lumière.
Une note philosophique sur le gris
et
le blanc.
Non, mais où nous mettre un petit mot de la fin?
Le mot de la fin? Beige.
Waouh.
Merci à toutes et tous de nous avoir écoutés. Merci à Romain d'être venu. Merci Mathieu. Merci Sylvain.
Merci à
Jules.
Merci Lisbeth et merci Zoé dans le fond. Et à bientôt pour la suite de nos aventures podcastiques.
Salut, salut.
Gros bisous.